Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mon projet au cours des trois années là, qui vont s'écouler, c'est de présenter l'ensemble des recherches que nous avons faites dans le désert oriental d'Égypte, dans la perspective à la fois de l'étude du commerce érythréen, c'est-à-dire le commerce entre l'Empire romain, l'Inde, Trapobane et au-delà, et d'une part, et d'autre part, l'exploitation des ressources naturelles dans le désert oriental. Et j'ai décidé de commencer par vous présenter les faits nouveaux, c'est-à-dire ce que nous avons fouillé avec notre équipe, et ce que personnellement, moi-même, j'ai fouillé, de façon à ce qu'on ait les bases. À partir de là, nous étudierons ce qui avait été écrit jusqu'alors et progressivement, nous essaierons de bâtir une synthèse. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé tout à fait basiquement par suivre la route qui menait de Coptos, où était située l'origine des routes, et à la fois sous l'Empire romain, la douane et l'armée romaine, route qui va à Myos Hormos. Je n'avais pas atteint la mer Rouge, mais nous allons l'atteindre aujourd'hui. Et puis nous commencerons à examiner les fouilles faites le long de la route de Bérénice, en nous arrêtant principalement sur le premier fort de la route de Bérénice, qui s'appelait Didymoi et qu'aujourd'hui s'appelle Hasselmeni, qui nous prendra un peu de temps, car c'est probablement celui que nous connaissons le mieux à l'heure actuelle. Alors, continuons donc la route de Myos Hormos. Nous nous étions arrêtés à Maximianon. Donc, je vous rappelle simplement ces deux routes, hein, Coptos, Myos Hormos et Coptos Bérénice. La première qui fait à peu près 170 km de longueur et l'autre, nous le verrons, beaucoup plus longue, 380 km. Et nous nous étions arrêtés ici, dans les montagnes, au niveau de ce fort de Maximianon qui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, présente principalement deux grandes phases. Une phase du 1er siècle après Jésus-Christ, occupée jusque sous Néron et qui est ensuite démolie et remplacée, je crois, sous Vespasien, et occupé jusqu'à la fin du IIe siècle. Alors, continuons donc la route, et le fort suivant s'appelle Hamra, ce qui veut dire le rouge. Vous allez comprendre pourquoi, parce que évidemment, la géologie du secteur est rouge et le fort lui-même est construit avec des pierres rouges. Le fort d'Hamra, malheureusement, ne nous a pas livré de textes qui nous permettent de savoir comment il s'appelait dans l'Antiquité. Il ne nous a pas livré de textes parce que, comme vous le voyez, il est au milieu du Wadi, donc enserré entre deux hauteurs, et que la porte qui est située donc sur le côté nord, et donc le dépotoir qui généralement nous livre les textes, a été emporté par le Wadi et ensuite recouvert par la route asphaltée actuelle. Et donc il n'y avait absolument aucun espoir de trouver quoi que ce soit. Ce fort, en fait, pour vous fixer les idées, est à peu près 130 km de Coptos et à 50 km de la mer, et il a été fouillé par Michel Redé en 1996. On voit ici une photo satellite. Vous voyez que le Wadi a pénétré dans le fort, il a détruit l'angle sud, et il a rempli le puits qui devait être dans ce secteur. On voit très bien sur la photo satellite, encore aujourd'hui, les casernements tout le long, et ici un petit bâtiment qui est du même type que celui que nous avons déjà vu à Crocodilo et à Maximianon. C'est un carré à peu près qui fait du même ordre que les autres, 59 mètres par 57, avec quatre tours d'angle. Ça, c'est le plan que nous avions levé à l'époque. Les tours sont en partie abîmées, mais elles sont bien restituables. Et à certains endroits, le rempart est complètement conservé, puisqu'on a le chemin de ronde et une partie du mur qui borde le chemin de ronde. C'est donc un plan très simple, comme vous voyez, avec des casernements adossés aux courtines. Et ce bâtiment carré sur lequel nous ne savons toujours pas ce qu'en dire, et je pense que Michel Redé aura une opinion là-dessus, et nous en débattrons dans 15 jours. Et on ne peut pas en dire grand-chose, dans la mesure où, comme tout l'effort de cette époque-là, il est extrêmement propre. Lorsque Michel Redé a fouillé les casernements, et on a trouvé du sable posant directement sur le substrat de colluvion du Wadi, et qu'il y avait très très peu de mobilier archéologique. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est occupé au IIe siècle, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, c'est une aporie. La seule particularité qui ne vous a peut-être pas échappé, c'est que, à la différence de Maximiano Necrocodilo, mais à la ressemblance du fort de Bir Hammamat que nous avons vu la semaine dernière, la porte est défendue par deux tours carrées, ce qui me semble être le signe d'une deuxième phase, si vous voulez, de construction de fort, et je ne serais pas étonné que ce fort ait été construit dans le cours du IIe siècle après Jésus-Christ. Mais je ne peux pas en dire plus, parce que franchement, on n'a pas plus d'éléments. Alors, un autre site tout à fait important, sur lequel nous aurions dû beaucoup plus travailler et qui malheureusement nous n'avons pas passé assez de temps, c'est celui qui s'appelle Bir Seyala aujourd'hui et qu'on suppose être l'ancien Simiou, qui est situé à une quinzaine de kilomètres du fort précédent et à une quarantaine de kilomètres de la mer, dans un coude de la route. Et c'est un fort qui est construit dans un étroit wadi, vous le voyez ici, hein, donc le wadi se resserre, ce qui explique que la force des eaux lorsqu'il y a des orages est emportée la moitié à peu près du fort que vous voyez là. Donc le fort, c'est ce petit carré ici, au centre vous voyez le puits, et le wadi a chassé en quelque sorte le fort. Alors, il est évident, lorsque nous l'avons commencé à le fouiller, ce fort présentait une espèce de masse confuse de ruines antiques autour d'un puits moderne qui a été refait au XIXe siècle. On remarquait tout autour des déblais assez importants, vous voyez ici sur la photo satellite, qui correspondent au creusement du puits. Et l'état des ruines n'était pas extrêmement engageant, surtout que le wadi, ici, avait totalement arraché la porte et évidemment le dépotoir qui était devant. Or, je vous le rappelle, la mission était quand même au départ essentiellement prévue pour mieux comprendre l'ensemble de ce dispositif, en grande partie en utilisant les textes que nous trouverions dans ces forts. Et évidemment, l'absence de tout dépotoir enlevait tout espoir, en quelque sorte, de trouver des textes. Et de fait, on n'a pratiquement rien trouvé dans les fouilles que nous y avons faites. Mais j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir plus passé de temps sur le fort du Bir Seyala, car c'est sûrement un point essentiel du dispositif. Vous allez comprendre pourquoi. D'une part, donc là, vous voyez le plan masse que nous avons réalisé à l'époque, et vous voyez comment le wadi a détruit une grande partie du fort. Et ce qui importe d'abord, c'est de comprendre que la nappe phréatique est très proche, et donc que c'était un puits facile à creuser. D'autre part, comme on peut le voir, alors vous voyez ici la masse un peu confuse des ruines, hein, avec le puits moderne qui est ici, et puis le rempart au moment où j'étais en train de faire les dégagements. Et comme on peut le voir sur le plan, il ne correspond pas à ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à un fort carré avec quatre tours d'angle rondes et une porte axiale, mais quelque chose d'un peu plus confus, qui se voit très nettement sur le plan. En fait, la restitution qu'on peut faire du plan montre que la longueur, si vous voulez, dans ce sens, fait plus de 42 mètres, mais évidemment, je ne peux pas le restituer totalement dans la mesure où ça a disparu, pour une largeur de 37,60 mètres, donc pas du tout les 50 mètres par 50 mètres des autres. Et il n'y a pas de tour d'angle. Et on voit bien qu'il y a plusieurs phases dans la construction du rempart. La porte n'était pas placée, comme nous l'attendions, sur le flanc nord, mais probablement dans cette partie-là, et malheureusement, elle a totalement disparu. Étant donné la position du puits, qui est généralement placé dans l'axe et qu'on restitue quelque part par là, on imagine que, donc effectivement, la porte était ici, et on a un autre indice, parce que dans les déblais charriés par le Wadi, il y a un linteau de porte, ou en tout cas un pied droit peut-être, qui permet de penser qu'on est dans ce secteur. Et le rempart présente au moins quatre états qui sont nettement visibles. Un premier fortin, quadrangulaire, s'entoure, mais avec ses toutes petites excroissances rondes que vous voyez là, fait donc à peu près 35 mètres sur un côté, donc environ 120 pieds. Un second état qui voit l'adjonction d'une tour quadrangulaire, qui est ici, qui défend donc mieux le fort, qui fait saillie de 2,20 mètres par rapport à la courtine. Une troisième phase dans laquelle la tour est doublée par deux contreforts, que vous voyez là, et une quatrième phase où l'ensemble du rempart est doublé par une nouvelle courtine qui l'englobe. Et c'est ce que vous voyez ici. Cette quatrième état indique donc une réfection totale de l'ensemble et qui porte donc la largeur totale de la courtine, environ 3 mètres de largeur. Cette décision de renforcer le rempart pourrait s'expliquer par un assaut des crues qui aurait déstabilisé, voire emporté une partie des courtines. Les tronçons nord et ouest, comme vous le voyez d'ailleurs, présentent des tracés sinusoïdaux qui sont peut-être liés justement à ces mouvements de terrain causés par les crues du Wadi. L'intérieur du fortin est très bouleversé. Il comporte des casernements qui sont accolés au rempart, mais qui sont extrêmement ensablé et rempli de sédiments. J'ai effectué des sondages dans deux d'entre eux et qui ont montré une très épaisse couche d'effondrement et je n'ai pas pu atteindre, par faute de temps, le sol primitif. Il existe trois citernes que vous voyez qui sont ici, là, sur ces photos, qui sont creusées probablement à côté du puits, et qui sont, comme d'habitude, battées à la chaux, enduites de mortier de chaux, et donc très solides. Le matériel archéologique qui a été trouvé dans les sondages est homogène, mais il montre seulement la phase finale d'occupation, qui est à peu près contemporaine de celle de Maximianon, c'est-à-dire de la fin du IIe siècle, ou peut-être du tout début du IIIe siècle. Et j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir travaillé plus longtemps sur ce site, car avec le recul, il me paraît un site clé à cause de ses particularités architecturales et de son nom probable. Alors, le nom, on le sait comment ? On sait parce que dans les ostracas trouvés sur le site de Maximianon, nous savons que la station suivante s'appelle Simiou. Or, si on fait ces ostracas sont plutôt du début du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, si on fait l'hypothèse que, comme je viens de le dire, le fort de Hamra, qui est situé entre celui-ci, donc de Bir Sayala et Maximianon, n'est construit que quelque part dans le IIe siècle, il est vraisemblable que ce Simiou désigne le fort suivant, c'est-à-dire celui qu'on suppose être Bir Sayala. Mais, évidemment, tout ça, c'est un château un peu fragile, hein, tissu d'hypothèse, mais j'y crois assez. Donc la question de la date d'occupation du fort doit prendre en compte à la fois ce nom, et nous allons voir qu'il n'est pas négligeable, et le matériel évidemment qu'on trouve. Alors, le nom est important parce que si ce fort s'appelle Simiu, on pourrait peut-être, à la suite d'une hypothèse d'Adam Bülow-Jacobsen, le rapprocher de Simias, qui s'écrit avec deux M, hein, Simias, qui était un ami, au sens des textes, de Ptolémée III, que Ptolémée III avait envoyé en Afrique à la recherche d'éléphants de guerre. C'est ce que nous dit Agatharchide dans Diodore de Sicile, livre 3, paragraphe 18. Donc, Simiu serait alors, dans ces cas-là, le puits de Simias, et si on identifie donc les deux, il serait possible d'imaginer une première implantation à Seyala à l'époque ptolémaïque. Et évidemment, ça rencontre l'observation que nous avons fait auparavant, qui constate que dans ce secteur, la nappe phréatique est très proche, et donc il était aisé de creuser des puits. Alors, si on revient au site lui-même, on se rend compte que le plan tel que vous voyez là, évidemment qui est très partiel, se rapproche du petit fort d'Abrac, qui est là aussi un quadrilatère de 33 mètres de côté, là aussi sans tour d'angle, avec une simple cour entourée d'une rangée de pièces, et qui un site qui a été prospecté par Steve Sidebottom et qui remonte à la période ptolémaïque. C'est aussi le cas pour une phase sûrement plus tardive du fort de Tiberiane à Baroud, prospecté par l'équipe du Mons Claudianus et publié par David Peacock et Valery Maxfield en 1997, où là encore on a un quadrilatère formé de murs ne comportant pas de tour d'angle au départ. Les tours qui existent à Baroud ont été ajoutées dans un deuxième temps. Donc on aurait affaire à un fort de type ancien. D'autre part, nous avons observé que sur la route de Myosormos, le fort du Bir Seyala est le seul qui comporte plusieurs phases de construction du rempart. Alors certes, cela est dû à sa situation particulière dans le fond du Wadi, qui est très exposé aux inondations, mais cela aussi peut signifier que le fort a été occupé bien plus longtemps que les autres et a nécessité des réparations, des restaurations, voire des réoccupations et des reconstructions à ce moment-là. Donc, je pense que ce fort mériterait mieux que le peu de temps que j'ai pu y consacrer. Il faudrait notamment faire une grande campagne pour dégager les niveaux anciens qui ne doivent pas manquer d'exister, mais qui sont très enfouis. En tout cas, j'en ferai volontiers une étape importante dans l'équipement de la route, et je crois que ce fort ou ce poste existait déjà à l'époque de Strabon et qu'il fait partie de ces étapes qu'il évoque. Mais là encore, la question est ouverte et comme vous le voyez, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour le résoudre. Alors si nous poursuivons notre route vers la mer, vous voyez que nous arrivons maintenant, on commence à voir la mer ici, nous étions dans le coude du Wadi ici et nous allons arriver au fort suivant qui s'appelle Dawi aujourd'hui parce que la montagne qui est ici s'appelle Djebel Dawi. Un fort là aussi qui présente un certain intérêt mais dont les réponses qu'il nous a données sont très insuffisantes. Dawi est situé donc à peine 27 km de la route, de la mer, 27 km de Myosormos. Et il est aussi donc enserré dans le même wadi. Vous voyez, nous étions tout à l'heure ici dans cette coude qui est ici. Nous arrivons là, au débouché du wadi qui va s'élargir en arrivant à la mer. Et vous reconnaissez très bien un fort du type, non pas de celui que nous venons de voir, de Seyala, mais du type de Maximianon et de Crocodilo. Lorsque nous nous approchons un peu, dans le plan topographique que nous avions enlevé à l'époque, vous voyez que, à la différence des autres forts, la porte est située au sud le long de la piste et qui aujourd'hui se devine. Et donc, alors que le Wadi passe au nord et effectivement a détruit l'angle nord-ouest du site. Et donc on s'attendrait à se trouver un gros dépotoir qui nous aurait donné tous les textes que nous aurions voulu. Or, il se trouve que lorsqu'on s'approche ici, on voit, bon, ici ce sont des traces modernes mais qui suivent plus ou moins la piste antique, il se trouve que nous avons bien des cordons de terre tout autour, mais qu'il n'y a absolument aucun dépotoir visible. Enfin, il y a quelques tessons qui restent en surface de ces cordons de terre, et ces cordons de terre, en fait, sont simplement les déblais du creusement du puits qui était situé au centre du fort. De ce point de vue-là, nous avons donc été fort déçus, et nous avons dû nous contenter de relever le site et de faire quelques sondages dans les casernements. Alors vous voyez ici une vue qui vous montre la porte sud au moment où j'ai procédé au dégagement et les casernements qui sont appuyés sur le rempart comme d'habitude et le gros puits qui était situé au milieu. En fait, le fort est très peu ensablé et on peut enlever un plan très précis, presque sans fouille. J'ai simplement fait quelques sondages dans les casernements qui sont là et dans la porte. Le comblement, d'ailleurs, est faible et on tombe directement sous la couche de sable sur les alluvions du Wadi, donc pratiquement aucune stratigraphie à l'intérieur et, comme je vous l'ai dit, aucun dépotoir à l'extérieur. Ça nous pose donc quand même un problème, notamment pour la datation. On voit bien que le fort est toujours un peu du même type que les autres, c'est-à-dire avec des tours d'angle ronde, donc on est plutôt dans la série Crocodilo-Maximianon, si j'ose dire. Mais il y a quelques particularités. D'une part, il y a un renfort sur les longs côtés des courtines par une tour, et la porte est légèrement différente de celle de Crocodilo et Maximianon. Donc on a l'impression qu'on est dans le même esprit, mais pas tout à fait peut-être à la même époque. D'autre part, comme vous le voyez, le fort n'est pas très densément occupé, donc ça correspond aussi à l'absence de dépotoir à l'extérieur, puisque nous n'avons des casernements que sur deux côtés, le côté nord et le côté ouest, que ces casernements n'ont pas été doublés et que visiblement ici, jamais rien n'a été construit. Les dimensions sont à peu près du même ordre que les autres, légèrement plus grands, 55 mètres d'est en ouest par 56 mètres du nord au sud, mais ça ne fait pas une très grosse différence. Ce qui est intéressant, c'est que comme le site est peu ensablé et très visible, on voit bien comment étaient disposés les casernements à l'intérieur. On voit très clairement dans les casernements qui sont appuyés sur le côté ouest des banquettes où étaient situés en fait les lits des personnages, des soldats qui étaient ici. Et dans plusieurs de ces casernements, outre les banquettes, nous avons des petits coffres de pierre, vous en voyez un ici, un là, qui sont les coffres qui servaient de mangeoires pour les chevaux. Donc c'est très clairement un poste de cavalerie. Le mobilier mis au jour est très pauvre. Il comprend principalement des gourdes d'Assouan, faites à Assouan et puis aussi dans la zone de Coptos, et quelques cruches, et correspond au matériel qu'on trouve dans les phases finales du dépotoir de Maximianon. Donc on a à peu près la certitude que ce site a été occupé dans, disons, la deuxième moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Mais on est bien en peine d'en fixer la construction. On voit bien qu'on est dans la tradition des forts de Crocodilo de Maximianon, à cause des tours, à cause du plan général, mais sans plus. Alors, la seule particularité intéressante, c'est que le fort présente ses tours supplémentaires et nous savons, par une fouille que nous avons faite bien après, une fouille qui remonte aux années 2006-2009, que le fort de Jovis, qui en fait s'appelait Dios, mais bon, dans les textes, Dios est le nom qu'on trouve dans les ostracas trouvés sur le site, et Jovis est dans les textes, notamment l'itinéraire d'Antonin. Donc dans le fort de Dios, qui est construit, là nous le savons avec une grande précision, en 115 après Jésus-Christ, nous le savons grâce à l'inscription de fondation, on a le même type de tour. Donc j'ai l'impression qu'on a affaire ici à un fort qui a été ajouté à un dispositif qui était déjà bien en place et qu'il a été ajouté quelque part dans le IIe siècle, peut-être vers le milieu du IIe siècle, qu'il a été très peu occupé, car sinon on aurait des dépotoirs importants, on n'a presque rien. Donc on a l'impression d'une fondation qui est en quelque sorte avortée et qui ne s'est pas développée. Alors pour quelles raisons, c'est très difficile à dire. Peut-être est-on trop proche de Myos Hormos pour qu'il soit nécessaire de développer une implantation plus importante. Peut-être simplement le puits ne donnait pas assez bien, et d'ailleurs on voit qu'il n'y a pas de citerne, et donc il est possible que cette implantation soit un échec, ce qui expliquerait qu'on ait une phase d'occupation très courte, selon moi, dans le milieu ou la deuxième moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Ce n'était probablement pas le cas du fort suivant, qui est situé à Bir al-Nahil. Alors, le problème du Bir al-Nahil, c'est qu'il n'est pas situé exactement sur la route qui conduit à Myos Hormos, mais sur un diverticule où il était parfois utile d'aller lorsqu'on avait besoin de s'approvisionner en eau, parce que le Bir al-Nahil, évidemment, a une source assez importante, une source d'eau, enfin, on atteint plus facilement la nappe phréatique. Et ensuite, on pouvait se rendre à Myos Hormos. Il est vraisemblable que le Bir al-Nahil participe à l'alimentation en eau de Myos Hormos, qui n'a pas d'eau directement. Donc, lorsqu'on arrive aux abords de Myos Hormos, on a en quelque sorte le choix d'aller s'approvisionner en eau à Bir al-Nahil plutôt que d'aller directement à Myos Hormos, où on devait savoir que l'eau était très limitée. En fait, la distance est faible, puisque le Bir al-Nahil est situé à 13 km à peine de Kousser al-Kadim, qui est l'ancien Myos Hormos. Et le site est assez mal connu parce que nous-mêmes, nous n'avons pas fait de fouilles, nous avons simplement fait un relevé des vestiges visibles qui sont très abîmés et qui ont été réoccupés à l'époque moderne par des constructions. Vous voyez ici des bâtiments externes qui sont peut-être d'époque moderne, ici un mur moderne. Donc tout ça est assez abîmé. Et nos collègues américains d'un côté et anglais de l'autre n'ont pas fait non plus de recherches très approfondies. Le site avait été prospecté dans la fin des années 1970 par l'équipe de Whitcomb et Johnson lorsqu'ils fouillaient à Myos Hormos, une prospection conduite par Martha Prickett. Et puis donc, après notre propre relevé, le site a été vu et un peu étudié par Graham Earle et David Peacock, qui ont donné un compte rendu dans l'ouvrage qu'ils ont publié récemment sur Myos Hormos. Et donc, je vous invite à examiner. Donc, l'ouvrage s'appelle Myos Hormos, Kousser al-Kadim, Roman and Islamic Ports on the Red Sea. publié en 2006 sous la direction de David Peacock et de Lucy Blue. Alors, dans cet ouvrage, qui est principalement centré sur le port lui-même, ils abordent la question du Birna Hill, mais ils font un compte rendu qui est très bref, qui confirme dans ses grandes lignes nos propres interprétations, mais ils mettent en doute un certain nombre d'entre elles, notamment ils mettent en doute le fait que la porte était à cet endroit-là. Pour moi, il n'y a aucun doute, même si les vestiges sont, comme vous le voyez, extrêmement peu clairs, la présence d'un dépotoir à raser à cet endroit-là donne une certitude absolue sur l'existence d'une porte et donc un plan probablement du même type que ceux qu'on a sur les autres forts de la route. On imagine que ces excroissances, là, ce sont des éboulis, correspondent en fait à l'écroulement des tours d'angle et qu'il y avait un puits au centre. Aujourd'hui, les puits qu'on voit ici sont des puits modernes, mais la nappe phréatique est très proche. Et donc, à la différence des sites comme Maximialon, Crocodilo, Hamra, Dawi, etc., on n'a pas besoin de faire des puits énormes pour atteindre la nappe phréatique. Des petits puits suffisent. Et j'imagine que le puits antique doit se situer effectivement dans ce secteur. L'eau, d'ailleurs, n'est pas très bonne à Birna Hill. C'est une eau saumâtre, mais sa teneur en sel est assez basse et permet la consommation humaine. Donc, elle n'est pas très agréable à boire, mais elle est consommable. Et il est évident que lorsqu'on arrive, notamment du désert, on la trouve certainement assez bonne. Le fort, donc, est situé sur une petite colline qui culmine à 320 mètres d'altitude. Et il est occupé certainement au IIe siècle après Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'on n'a pas de fouilles et on est bien obligé de se fier aux prospections qui ont été faites soit par l'équipe américaine, soit par notre propre équipe. Et le matériel est assez peu caractéristique. On y trouve principalement des amphores égyptiennes, dites amphores égyptiennes 3, et du mobilier du type gourdes fabriquées à Assouan, etc. Donc on a une certitude que le fort est occupé dans le IIe siècle, mais on ne sait pas à partir de quand il est utilisé. Ma conviction est que dans la mesure où ce site fonctionne probablement comme source d'eau pour le port de Myos Hormos, qu'il est occupé certainement depuis l'époque ptolémaïque et qu'il est ensuite occupé au moins jusqu'à la fin de Myos Hormos, c'est-à-dire vers le début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais malheureusement, là encore, il faudrait une fouille plus approfondie pour s'en assurer, et c'est quelque chose qui reste à faire, ce site n'ayant pratiquement jamais été touché. Alors nous arrivons enfin à la mer et à Myos Hormos. Myos Hormos, qui est situé à l'emplacement d'un site qui est connu depuis fort longtemps, qui s'appelle Kusr al-Qadim. Je ne vais pas m'étendre sur les détails de la fouille, car il faudra y revenir de façon plus approfondie par la suite, mais je vais vous donner quelques éléments pour la compréhension. Et d'abord, on ne sait pas exactement à quelle époque Myos Hormos a été fondé. La première attestation qu'on en ait remonte à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et se trouve chez Agatharchide dans une partie qui est rapportée par Photius en 250, paragraphe 81. Agatharchide donne la première attestation sûre du toponyme et ajoute que le port qu'il décrit comme l'hymen méga, c'est-à-dire un grand port, s'appelle à son époque Aphrodite, mais apparemment ce nom ne s'est pas imposé. En revanche, Il ne mentionne pas le port de Bérénice à cette époque-là, pourtant qui existe. Le développement de Myos Hormos est lié directement à l'accroissement du commerce oriental suscité par la demande grandissante des produits de luxe érythréens à Rome. On a effectivement une concomitance entre la présence accrue de négociants italiens à Alexandrie dans le IIe siècle avant Jésus-Christ et la charge confiée en 130 avant Jésus-Christ à un certain Sotéricos, qui est un grand personnage de la cour d'Alexandrie et qui est délégué à l'extraction des pierres précieuses et aux navigations dans la mer Rouge, évidemment avec pour mission de s'assurer de la sécurité des transports d'aromates et du commerce en général dans le désert de Coptos. Donc, on voit se créer, se développer ce port, dans les textes en tout cas, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le développement va complètement changer de nature à partir de l'époque d'Auguste, car au témoignage de Strabon, le trafic alors se multiplie par pratiquement 10 par rapport à ce qu'il existait auparavant, et donc on doit assister à une explosion en quelque sorte des constructions dans cette zone. Les fouilles qui ont été dirigées d'abord par des fouilles faites par l'équipe américaine de Whitcomb Johnson et puis de David Peacock et de Lucy Blue ont beaucoup apporté à notre connaissance du site, et je vous renvoie donc au livre qui a été publié par eux en 2006 et puis il y a un autre volume plus récent. Et pour ma part, j'avais développé l'hypothèse dans un livre que nous avons publié en 2004 sur la route de Myos Hormos que, étant donné qu'à l'époque, on ne connaissait pas de vestiges d'époque ptolémaïque à Kosser al-Kadim, j'avais pensé que, en fait, ce qu'on voit ici à Kosser al-Kadim, bon, il faut que vous imaginiez que le port était situé dans ce secteur-là, dans la Chakpa, qui est aujourd'hui complètement ensablée, et les constructions se développent sur cette petite colline qui est ici, et peut-être en bordure ici. Donc j'avais imaginé que ce port installé à Kosser al-Kadim était une extension d'un port plus ancien qui aurait été situé à Kosser lui-même, qui est situé à quelques kilomètres au sud. Vous voyez ici, Kosser al-Kadim est ici et Kosser est ici. Et en quelque sorte que ce serait le développement du commerce qui aurait nécessité la création d'un nouveau port. C'est une erreur, et je fais ma rétractation publique ici, car les fouilles qui ont été publiées par nos collègues anglais et les céramiques étudiées par Roberta Tomber, que j'ai invité dans le séminaire le 18 novembre, montrent que Kosser al-Kadim a bien été occupé à l'époque ptolémaïque, mais que les niveaux de cette époque sont si profonds et si inclus dans la nappe phréatique, ils sont très difficiles à atteindre et donc qu'on a du mal à saisir l'occupation ptolémaïque de Kosser al-Kadim, à la différence de l'occupation ptolémaïque de Bérénice, qui, elle, est bien claire. Il faut aussi ajouter que le changement d'échelle qui se produit à l'époque romaine, avec la multiplication pratiquement par 10 du trafic, et probablement donc des vestiges, fait qu'on voit principalement, lorsqu'on fait la fouille, les vestiges de l'époque impériale et très très mal les vestiges antérieurs. Enfin, le site lui-même a été occupé encore plus tard, au Moyen-Âge, lorsqu'il devient un port, ou même l'un des ports principaux, pour aller au pèlerinage de la Mecque. Et à ce moment-là, les pèlerins qui partent de Kouch, une ville qui est immédiatement au sud de Coptos, partent de Kouch, donc suivent à nouveau la route de Myos Hormoz à travers le Wadi Hammamat et aboutissent à nouveau au port de Kousser al-Kadim et partent de là, traversent la mer Rouge pour aller au pèlerinage de la Mecque. Donc tout ça rend la situation topographique et stratigraphique de la fouille de Kousser al-Kadim complexe et donc mérite un développement sûrement plus important que le très bref résumé que je fais aujourd'hui. On y reviendra certainement par la suite. Mais donc, je voulais simplement vous montrer où on aboutit et quels sont les problèmes. Alors ici, un problème plus récent que nous avons vu se construire dans les années, à la fin des années 1990, c'est ce grand complexe touristique qui a privatisé la plage qui en fait est l'entrée du pont antique, qui a probablement détruit une partie des vestiges, mais bon, le site principal est situé ici, donc à l'abri, et qui évidemment fausse un peu la perception aujourd'hui. Ici, une vue d'un peu plus près, vous voyez, c'est très difficile de distinguer les vestiges, on voit quelques bâtiments ici et là, et les fouilles anglaises ont porté non seulement sur les bâtiments, mais aussi sur les installations portuaires totalement sablées qui sont ici. Et ce qu'on voit évidemment de plus clair, ce sont les vestiges d'époque médiévale. Ici, la partie dégagée par l'équipe américaine de Whitcomb Johnson et donc des vestiges du 14e, 15e siècle après Jésus-Christ. Mais comme je vous le dis, donc on y reviendra. Donc ici, nous arrivons à la mer Rouge et nous allons revenir en arrière pour nous réintéresser à non plus la route de Myos Hormoz, mais la route de Bérénice. Il faut donc revenir jusqu'à l'embranchement qui est situé dans l'oasis de Phoinikon Lakeïta. Et donc ici, nous changeons de carte pour prendre une carte que j'ai établie et un peu simplifiée. Donc, nous étions à Myos Hormoz et nous revenons à Phoinikon pour nous diriger vers Bérénice. Cette route donc, de Bérénice était trois fois plus longue que celle qui allait à Myos Hormoz, puisqu'elle fait 380 km de long. Et on peut donc se demander pourquoi on a développé et équipé, de façon, vous allez le voir, très importante, cette route qui nous paraît à nous aujourd'hui extrêmement longue et difficile. C'est tout simplement, si j'ose dire, que il est relativement aisé d'arriver jusqu'à Bérénice avec des bateaux, notamment des bateaux importants, car nous le développerons par la suite, les bateaux qui viennent d'Inde sont poussé par la mousson qui se fait encore sentir jusqu'à la latitude de Bérénice. Mais par contre, il est très difficile de remonter la mer Rouge au-delà de Bérénice, car dans cette partie de la mer Rouge, les vents dominants viennent du nord, et donc il faut, comme on dit en termes techniques, tirer des bords, c'est-à-dire naviguer en zigzag pour remonter contre le vent, et c'était difficile pour des navires antiques qui n'avaient pas évidemment les capacités nautiques de nos voiliers de course actuels. Et c'était aussi difficile, et ça l'est encore aujourd'hui, car tirer des bords suppose de s'approcher des côtes. Or, les côtes sont très dangereuses à cause des récifs coralliens et des hauts fonds. Donc, le port de Bérénice, qui est certes excentré, beaucoup trop au sud, était quand même préférable, notamment pour les gros tonnages. Et on voit bien que le changement se produit assez vite, puisque à l'époque de Strabon, c'est Myos Hormoz qui est le grand port du commerce érythréen, et c'est là qu'il nous dit, donc Strabon écrit vers 25 avant Jésus-Christ, hein, il nous dit le trafic a été multiplié par 10, et dès qu'on rentre dans le 1er siècle après Jésus-Christ et qu'on suit le texte de Pline qui écrit, nous allons le voir dans les années 70, on voit bien que Myos Hormoz s'est déjà déclassé et que c'est Bérénice qui a pris le dessus en tant que port, parce qu'évidemment, le tonnage des trafics a beaucoup augmenté, le tonnage des bateaux aussi, et qu'il est devenu, ou redevenu plutôt, nous le verrons, redevenu plus attractif de s'ancrer à Bérénice. Bérénice, d'ailleurs, qui n'a pas de vrai port, à la différence de Myos-Hormos, puisqu'on s'ancre dans la baie, hein. C'est pas un bon port du tout, mais qui a cet avantage de pouvoir accueillir des gros bateaux arrivant au port, poussés par la mousson. Et alors, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'à la différence de cette route relativement courte, il fallait au minimum 12 jours pour parcourir la route de Bérénice à Coptos, là où on mettait moitié moins de temps, beaucoup moins que moitié moins de temps, pour venir de Myos-Hormos. Et je pense que si Myos-Hormos continue à être utilisé assez largement jusqu'à la fin du IIe siècle, ce n'est plus à ce moment-là pour le grand trafic venu d'Inde et d'Arabie, mais parce que, comme c'est la distance la plus courte, c'est là que viennent les bateaux qui portent des matériaux plus légers, et c'est surtout par là que passent les officiels, le courrier et tout ce qui ne demande pas de gros bateaux de transport. Et donc, comme je vous l'ai dit, Strabon ne nous parle pas véritablement de la route de Bérénice, même s'il connaît le site. Par contre, Pline nous en parle, et de façon assez détaillée, et c'est quand même important de citer son texte. Il nous dit, en effet, c'est important parce qu'il nous décrit une situation qui est immédiatement antérieure à la construction du fort de Didumoy et des forts suivants, c'est-à-dire Didumoy est construit, nous allons le voir en même temps qu'Aphroditesaurus, probablement le premier fort de Dios qui est situé à Bir Beiza, peut-être celui de Xeron Pelagos, et certainement celui de Sikaïte qui est à côté de Bérénice. Donc, il nous décrit une situation qui est antérieure à 76 après Jésus-Christ. Et donc, on est probablement dans les informations qu'il a qui sont tout à fait à jour, nous donnent la situation vers 70, disons. Et il dit ceci. À partir de Coptos, on voyage en chameau. Les étapes ont été prévues pour le ravitaillement en eau. La première, à 22 000 de Coptos, s'appelle Hydromain. Et donc, ça veut dire l'endroit où il y a de l'eau. Et à 22 000, on est à Phoenicon. Donc, il ne connaît pas, il ne dit pas le nom de Phoenicon, mais il dit c'est en quelque sorte le point d'eau. Le deuxième est un jour de marche en plein désert. Comme il ne nous donne pas de nom, cela veut dire que les caravanes bivouaquaient, notamment aux heures chaudes. Alors, comme Didumoy n'existe pas encore, il faut imaginer qu'il bivouaque quelque part dans ce secteur. Alors, deux endroits possibles sont le Panéon d'El Boueb, qui est situé ici, que j'ai oublié de marquer sur cette carte, et le Panéon du Wadi Meni, qui est situé ici. On les appelle Panéon parce que ce sont des abris à l'ombre, parfois avec une petite grotte qui permet donc de se mettre, de se protéger du soleil. Et à cet endroit-là, les voyageurs ont fait des dédicaces assez souvent à Min, qui était le roi du désert, enfin le dieu du désert, et Min associé à Pan, identifié à Pan. Et donc, et nous y reviendrons pour le cas la semaine prochaine, pour le cas du Panéon du Wadi Meni, de nombreuses inscriptions qui donnent à la fois le détail des voyages, le nom des gens, d'où ils viennent, leur date, et aussi donc quelques dévotions faites à cette occasion. Donc il nous dit, le deuxième jour est un jour de marche en plein désert, le troisième jour dans un autre hydromain à 85 000 de Coptos. Alors cet autre hydromain, c'est évidemment Campasie, qui est un site tout à fait considérable dont je parlerai la semaine prochaine, qui est important parce que c'est un site qui commence à l'époque ptolémaïque comme étant une mine d'or et qui est situé dans une zone où il y a de l'eau, à assez facile à atteindre en creusant au fond du Wadi. Et c'est une zone où on se développera assez tôt un poste de l'armée romaine, puisque une inscription nous dit qu'on y a creusé des citernes à l'époque d'Auguste et que ce site continuera d'être occupé jusqu'à la fin de la fréquentation de la route, c'est-à-dire jusqu'au milieu du IIIe siècle. Mais nous y reviendrons plus en détail. Donc, la deuxième grande étape, c'est celle de Campasie. Et ensuite, il nous dit, on s'arrête à nouveau en plein désert. Alors là, c'est quelque part entre Dios et Xeron Pelagos, mais à cette époque-là, les forts n'existent pas encore. Puis, on arrive à l'hydroma d'Apollon, qui est ici, qui est une fondation d'époque ptolémaïque, qui est située, dit-il, à 184 milles de Coptos. Puis, à nouveau, on fait un bivouac en plein désert, et on arrive ensuite au nouveau hydroma, Kainon Hydroma, qui est situé ici, à quelques encablures de Bérénice. Et donc, il dit ensuite, on arrive à la ville de Bérénice, où se trouve le port sur la mer Rouge, qui est situé à 257 milles de Coptos. Mais, dit-il, comme la plus grande partie du trajet s'effectue de nuit à cause de la chaleur, et que l'on bivouaque pendant la journée, le trajet de Coptos à Bérénice, prend au total 12 jours, et c'est une durée sûrement assez courte. Il y a des cas où on a sûrement mis plus de temps pour parcourir la route, mais c'est une bonne approximation du temps nécessaire. Alors, ce passage est situé dans le livre 6 de l'Histoire naturelle, au paragraphe 102 et 103. Comme les caravanes marchaient environ 30 km par jour ou plutôt par nuit, il s'ensuit donc que toutes les étapes ne sont pas mentionnées par Pline. Par exemple, j'imagine qu'on faisait au moins deux bivouacs entre Phoenicon et Campasie, comme je vous l'ai dit, peut-être à El Boueb et au Wadi Meni. Ce sont ces étapes qui s'étaient progressivement fixées qui seront utilisées approximativement pour installer les forts. Et le premier de ceux-ci, ce que nous allons voir, sera le fort de Didymoi, qui est donc situé à une quarantaine de kilomètres, de Phoenicon, et sur lequel je vais m'approfondir maintenant.